Voilà, nous sommes toujours en direct de ce salon du printemps depuis la halle des sports de Saint-Angoël. D'ici quelques instants, une nouvelle interview en compagnie de Martine de l'air du temps. Je lui le temps de lui de donner le micro. Voilà, voilà. Et puis, bien sûr, on est, sachez-le, en direct toute la journée sur le 104.3. N'hésitez pas à venir, il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup d'associations qui sont présentes. Je peux vous en citer quelques-unes. On a l'association donc Art et Nature. On a également la CPIE, la chaîne des Terris. La cueillette nomade, les paysages, les jardins et les hommes, ça c'est l'interview que Martine a faite tout à l'heure, bien sûr, juste avant 10h. On a également plusieurs horticulteurs, également des apiculteurs, des sculptrices aussi. Donc voilà, on va découvrir tout ça tout au long de cette journée sur Radio Plus. Alors Martine, est-ce que tu as quelqu'un ?
Eh bien, je crois que Jean-Philippe, pardon.
Oui.
Jean-Philippe, je crois que la première des choses, c'est peut-être de dire bonjour à Monsieur le maire.
Bien sûr. Bonjour, Monsieur le maire.
Bonjour, Monsieur le maire. Alors, voilà, Monsieur le maire, qu'est-ce que ce salon, pour vous, c'est quand même un plus pour votre commune ?
Bien sûr, d'autant plus que c'est une activité un peu innovante, parce que c'est le deuxième salon que Monsieur Lautten y organise. Donc ça vient en plus de toutes les manifestations, les festivités qu'on organise ici dans la commune. Et c'est quelque chose d'atypique qui se fait pas partout. Et moi, je suis très heureux de voir l'appétence que notre offre a suscité et de voir que cette halle de sport, elle est bien remplie avec beaucoup de complémentarité dans tous les exposants.
Alors, Monsieur le maire, je crois que vous êtes, on en parlait avec Jean-Jacques une fois, Jean-Jacques Lautten, qui est président aussi, qui est non seulement un de vos adjoints, mais qui est aussi président de l'association Saint de Nature et de Culture. Alors, vous avez été une des premières, et ça, c'est à signaler, et vous êtes tout à fait, on va dire, on peut vous féliciter, vous avez été une des premières communes à adopter le zéro phyto.
Oui, c'est ça, tout à fait. On s'est aperçu que c'était quand même une vraie problématique, puis d'autant plus que la loi, elle nous l'impose depuis le 1er janvier ici 2017. Donc c'est vrai que depuis quelque temps, on avait réfléchi avec l'ensemble de l'équipe de municipale, Monsieur Lautten, Monsieur différents adjoints qui sont sensibilisés à ça, et Monsieur Bruch, je pensais à lui aussi. Et c'est vrai qu'on a pris cette initiative de supprimer complètement tous les produits phytosanitaires. Il y avait même un de mes élus qui avait eu cette maxime au vœu de 2017. Plutôt que de prendre du produit phyto, faut prendre sa binette et sa brouette. C'est vrai que les anciens, ils travaillaient tout manuellement, et c'est vrai qu'au fil du temps, ces produits-là, ils se sont imposés à nous pratiquement. Et c'est vrai qu'après, on s'aperçoit au fil du temps les nuisances que ça occasionne localement et puis sur l'ensemble de la biodiversité, quoi.
Non seulement sur la biodiversité, mais aussi, et c'est important, sur notre santé.
Tout à fait.
Alors, Monsieur le maire, ceci dit, ça n'a pas été trop difficile, non pas puisque je suppose que s'il n'y a plus de produits phytosanitaires, il y a forcément des mauvaises herbes, quoique certains diraient il n'y a pas de mauvaises herbes, il y a des herbes qui dérangent un peu, mais ce ne sont pas des mauvaises herbes, elles sont en tout cas très, très utiles pour la biodiversité. Est-ce que, justement, vous n'avez pas dû un petit peu changer les mentalités dans votre commune?
Oui, tout à fait, il a fallu aussi faire de la sensibilisation à nos concitoyens, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Ils avaient l'habitude d'avoir le trottoir propre ou leur environnement propre, et là c'est vrai que du jour au lendemain, comme vous le dites, il y a des herbes qui arrivent et qu'on n'a pas forcément la faculté, le loisir de tout enlever au fil du temps. Donc c'est un problème de mentalité à faire évoluer, et se dire aussi que il y a une prise en charge aussi collective et individuelle à prendre, pour dire que devant chez soi, dans le temps, chacun a nettoyé son petit coin de trottoir, et maintenant c'est un peu perdu de vue tout ça. Donc c'est vrai qu'il faut refaire une certaine pédagogie pour dire qu'on travaille tous ensemble dans la même ambition, quoi.
C'est ce qu'on appelle, ce qu'on pourrait appeler de la participation citoyenne. Voilà. En tout cas, monsieur le maire, merci. Et puis, bravo pour ce salon. Et puis, tout à l'heure, bien sûr, j'interviewerai Jean-Jacques Lauten, qui est, je vous répète, président de Saint de Nature et de Culture, et qui est à l'origine, donc, de ce salon du printemps dans votre commune. Merci, monsieur le maire.
Merci Martine, merci monsieur le maire de Saint-Angouël, et puis bien sûr on se retrouve juste après un petit peu de musique sur Radio Plus avec REM. Phil Collins sur Radio Plus et tout de suite on va se rendre à différents stands. Bien sûr, on est toujours en direct, je vous rappelle, de ce salon du printemps qui se trouve à Saint-Angoël, à l'Halle des Sports qui se situe, alors il me semble de mémoire, impasse Sully, vous me pardonnerez si je me trompe, mais en tous les cas, voilà, on est en direct sur Radio Plus. Martine, bien sûr, tu m'interromps dès que tu as quelqu'un.
Alors, Jean-Philippe, pour tout te dire, je voudrais retrouver Jean-Jacques, qui forcément parcourt ce salon.
Donc Jean-Jacques Lotten.
Jean-Jacques Lotten, qui est président de Nature et de Culture.
Tout à fait.
Alors, ben écoute... Je le cherche.
Eh bien, en attendant.
Va peut-être. Alors, tu sais quoi, Jean-Philippe?
Oui.
Je ne sais pas pourquoi je veux t'appeler Jean-Louis ce matin.
J'ai ma petite idée.
Alors, on va peut-être se rapprocher. Ça, je sais que ça t'intrigue. On va peut-être se rapprocher.
Les plantes carnivores, oui.
Les plantes carnivores, savoir ce qu'est une plante carnivore. Et ça.
Voilà, je vais demander à monsieur de se présenter.
Attention,
bonjour,
Jean-Philippe.
Donc je suis Tony Baudez et j'ai un stand de plantes carnivores.
Alors, attention, elles vont te sauter à la figure.
Il y a des chances. tout d'abord, d'où vient votre passion pour ces plantes?
En fait, depuis que je suis tout petit, je suis toujours attiré par le monde végétal et les plantes carnivores ont un attrait supplémentaire puisqu'on les voit bouger et se développer en fait.
Alors, expliquez-nous un petit peu les différentes plantes que vous exposez sur ce stand aujourd'hui.
Donc, en fait, ce sont toutes des plantes rustiques, des plantes carnivores qu'on peut laisser dehors, qui vont résister entre moins 10 et moins 20 degrés. Et donc, ce sont des Sarracenia, des Dionées et des Drosera rustiques.
Et alors, donc, quelle est la particularité de ces plantes, justement, quand on dit qu'elles sont carnivores, de quoi se nourrissent-elles, justement?
Donc en fait, on dit qu'elles sont carnivores parce qu'elles sont capables d'attraper, de digérer des protéines, mais elles sont surtout insectivores. Donc elles vont capturer des mouches, des moustiques, des araignées, tout ce qui traîne en fait dans nos jardins. Quoi.
Voilà, donc pas de risque de se faire mordre le doigt par ce genre de plantes.
Non, pour l'être humain et même pour nos animaux, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun risque.
D'accord. Et c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, ça, la vente de plantes carnivores comme ça ou...
Il y a un attrait depuis quelques années, puisqu'on en voit dans beaucoup de jardineries ou même certains magasins maintenant. Mais il y a un gros travail d'information à faire derrière, parce qu'il y a des conditions de culture à respecter, sinon les plantes dépérissent très vite.
Alors, expliquez-nous ça, donc, ces conditions de culture à respecter, qu'est-ce que c'est ?
La première, c'est que ce sont des plantes carnivores parce qu'elles n'ont pas de sels minéraux dans leur milieu naturel. Donc si on vient leur en apporter avec de l'eau du robinet, par exemple, on va les faire mourir d'une overdose. Donc ça, c'est la première règle. La deuxième, c'est qu'on a l'impression que c'est des plantes fragiles, mais en fait, ce sont des plantes qu'il faut mettre à l'extérieur parce qu'elles ont besoin d'une période de froid l'hiver. Donc si on les met en intérieur, on respecte pas cette période de froid. Et la troisième, c'est qu'elles ont besoin d'énormément de lumière. Donc si on les met toujours en intérieur, souvent, on n'a pas l'exposition nécessaire pour la plante.
Donc très important déjà, c'est au niveau de l'arrosage, donc l'eau, faut pas faire n'importe quoi, alors comment faire concrètement?
Exactement, donc comme je l'ai dit, surtout pas d'eau du robinet, on met toujours de l'eau de pluie ou de l'eau déminéralisée, et au niveau de l'arrosage, ce sont des plantes de marée, donc on les laisse toujours dans un fond d'eau, dans une coupelle.
Très bien, et alors donc justement, j'imagine que vous avez aussi une boutique
En fait j'ai un site internet qui s'appelle Végétalement Carnivore, qu'on peut retrouver sur internet en tapant sur Google exactement.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si Martine, tu as des questions à poser à ce monsieur.
Alors, justement, peut-être, quel est l'avantage pour la biodiversité?
Pardon, j'ai pas...
Quel est l'avantage? Quels sont leurs avantages? Est-ce qu'elles apportent quelque chose au niveau environnement, c'est-à-dire pour la biodiversité?
En fait, on s'est rendu compte que les Sarracenia attrapaient beaucoup les frelons asiatiques. Donc, pour nous, dans le Nord, on n'en a pas encore. Mais les scientifiques sont en train de les étudier justement pour reproduire la phéromone qui permet d'attirer les frelons asiatiques et d'en faire des pièges pour limiter la population de frelons asiatiques.
Des pièges tout à fait naturels donc.
Naturels. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça vient attirer les insectes, mais pas les insectes pollinisateurs. Donc en fait, elle sélectionne les insectes qui lui sont bénéfiques.
Tout à fait.
Ce qui permet aussi d'éviter les insecticides, par exemple.
Après, c'est pas un insecticide, c'est-à-dire qu'on sait qu'elles vont attirer des frelons asiatiques, etc. Mais c'est un peu comme si on mettait un caméléon dans sa chambre et disant j'aurais plus une mouche parce que j'ai un caméléon, quoi. Voilà.
Ok, très bien.
Merci.
Eh bien, merci beaucoup.
Et sans doute à tout à l'heure. Merci.
Voilà, on va continuer notre petit tour des stands sur Radio Plus. On est en direct, bien sûr, il est 10h20 sur le 104.3. On va essayer également de retrouver Jean-Jacques Lauten. Martine, si on le voit, bien sûr.
On va lui mettre un gyrophare, Jean-Philippe.
Alors, donc, on va se diriger vers un autre
stand. On va peut-être profiter du passage de Jacques Zwitalski. Bonjour, Jacques.
Bonjour. Bonjour, bonjour.
Alors, Jacques Zwitalski est président, je crois encore.
De Nœuds Environnement, tout à fait, oui.
De Nœuds Environnement. Alors, Jacques, Nœuds Environnement, on pourrait peut-être en parler, parce que quand même, il y a beaucoup, là aussi, dans c'est une association où il y a beaucoup, beaucoup de choses qui s'y font. Et en plus, c'est une association où, disons que il y a un peu pratique d'économie solidaire, on va dire. Voilà.
Alors effectivement, bon, je vais peut-être commencer chronologiquement par le début. C'est une association que j'ai créée maintenant il y a un quart de siècle, comme le temps passe vite, avec une poignée de bénévoles. On est allé nettoyer les cours d'eau. Et puis très vite, les gens nous ont dit, vous savez ce que vous faites, vous pourrez le refaire dans 15 jours. Donc, je dis, on va le refaire dans 15 jours. Donc, on est passé avec une poignée de bénévoles, on a nettoyé les cours d'eau. Et puis ensuite, vu que je suis directeur pénitentiaire, on a fait sortir des prisonniers de la maison d'arrêt de Béthune pour aller nettoyer le cours d'eau. Ensuite, il y a la Fédération de Nature qui est venue nous voir en nous disant, écoutez, il y a les bizutages, ils veulent faire une action pour l'environnement. Donc il y a 3 bus qui sont arrivés d'ingénieurs ISA pour pouvoir nettoyer également la Loine. C'est un cours d'eau qui passe pas très loin d'ici. Et là, on a donc commencé à nettoyer. Et puis après, on s'est dit, tiens, le cours d'eau, c'est un milieu vivant. Donc il faut aussi un minimum de connaissances et de compétences professionnelles. Donc on a embauché des personnes en contrat aidé. Et ces personnes ont suivi une formation de cantonnier de rivière afin de mieux préserver la nature et d'agir en fonction des saisons. Parce que ce qui rythme maintenant le travail, c'est tout de même les saisons. Et pour continuer, il faudrait peut-être sensibiliser les personnes. Alors là, on a recruté des personnes pour faire des actions pédagogiques dans les écoles. Ensuite, on a continué et puis on a commencé à passer des conventions avec l'Université de Lille et on a recruté des étudiants pour 6 mois. On a fait ce qu'on appelle des études de corridor biologique. Alors c'est quoi un corridor biologique ? C'est relativement simple. On prend toutes des parcelles dans une commune, un territoire donné, comme la ville de Saint-Gouël, par exemple, vu que nous sommes à Saint. Et puis, on regarde toutes les zones urbanisées, les zones cultivées, les zones drainées, toutes les zones. Et on regarde ce qu'il reste comme zone naturelle. Et à partir de là, on essaye de relier toutes les zones naturelles entre elles. Alors, je suis accompagné de Pauline, qui est en stage à l'environnement pour 6 mois. Donc, elle pourra peut-être dire un mot si elle le souhaite après, mais c'était pas prévu dans le scénario de départ. Mais c'est bien aussi de faire ses armes sur le tas. Alors je vais peut-être continuer dans la progression de l'association parce que je ne voudrais pas être trop long. Ensuite, après les conventions avec l'université, on a fait donc des propositions aux communes qui le souhaitaient. Mais alors des propositions, c'était de faire découvrir le patrimoine naturel parce qu'on connaît le patrimoine bâti, le patrimoine historique, mais souvent le patrimoine naturel, les gens connaissent assez peu. Et certaines personnes, certains maires m'ont dit, c'est quoi une Eusniev ? Et Neusiave, c'est une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Et dedans, il y avait des espèces protégées. Donc, à partir de là, c'est de faire un petit fascicule pour faire connaître les richesses d'un territoire donné que les habitants eux-mêmes, bien souvent, n'apprécient pas leur juste valeur. Ne serait-ce que les grenouilles, les tritons, ce sont des espèces que l'on voit qui sont protégées. Et si on ne prend pas un minimum de mesures, d'ici quelques dizaines d'années, on ira peut-être les voir au musée. Chose que l'on ne souhaite pas, bien évidemment. Et ensuite, donc, pour continuer, on a continué à développer l'association. Et actuellement, il y a une trentaine de salariés. Donc, avec 8 permanents. Donc, avec différentes équipes d'intervention. Et là, ce sont, j'aime bien le dire, des emplois non délocalisables, en période économique. Donc, on essaye de faire le lien entre économie et écologie. Et là, on a une preuve concrète, objective, où on a des personnes qui se sont investies. Et souvent, il faut des personnes qui ont un minimum de connaissances techniques, mais aussi de la motivation. Et la motivation, c'est important parce que souvent, on peut faire des choses encore plus que l'on n'avait pu prévoir au départ. Alors, on a eu des agréments éducation nationale, ministère de la Justice pour accueillir des personnes en travail d'intérêt général, ESUS, alors c'est entreprise solidaire d'utilité sociale, jeunesse et sport, enfin, on a toute une série d'agréments, donc, qui valident le travail qui était effectué par nos permanents. Mais je pourrais qu'on en parler longtemps, mais j'aurais peut-être pas parler trop longtemps, mais quand c'est un sujet qui passionne, et la nature, c'est un sujet qui passionne, et à chaque fois que l'on fait des salons, j'aime bien dire aussi, ce qui est important, c'est que la nature, elle n'a pas besoin de l'homme, hein, ça faut le savoir, parce qu'elle existe, la Terre est là depuis 5 milliards d'années, mais tandis que l'homme a besoin de la nature. On a connu donc l'époque des dinosaures, ici on est dans l'époque humaine, je dirais, peut-être que d'ici quelques siècles, l'homme aura disparu, mais la Terre sera encore là, depuis 5 milliards d'années. Donc c'est une chose qu'il faut avoir souvent à l'esprit, que ce soit dans les dérèglements climatiques, que ce soit dans la préservation des espèces. Alors le tout, c'est d'essayer de vivre en harmonie avec ce qui nous entoure en respectant. Et je dis toujours, on voit que les inondations, il ne faut pas chercher à dompter la nature, mais il faut essayer de composer avec elle. Donc voilà ce que je peux dire un petit peu sur la chronologie de l'environnement, puis le petit discours personnel donc sur la protection de la nature et de l'environnement.
Ça veut dire que c'est aussi une association importante en taille, hein, quand même, hein, 8 permanents, 30 salariés.
C'est ça, donc oui, si on prend l'aspect personne, donc il y a effectivement donc 30 salariés, 8 personnes en CDI. Donc nous avons bien sûr un directeur, une chargée de mission, une coordinatrice sociale, un animateur nature, une chargée de mission et 3 encadrants techniques sur les cours d'eau, sur les sentiers pédestres parce qu'on a développé d'autres activités. Et puis aussi donc on fait du jardinage aussi, du maraîchage naturel. Et donc là on a un chef jardinier qui est très compétent et qui, comment dirais-je, vend ses légumes d'ailleurs souvent en fin de semaine, des produits donc sans engrais, sans pesticides, sans insecticides. Que du naturel.
Et de saison.
Et de saison, bien évidemment. Parce que les fruits de saison, c'est maintenant ou dans un an. Hein.
Économiquement, comment on fait pour justement faire fonctionner une telle association? C'est avec des subventions?
Alors, vu qu'on est agréé atelier chantier d'insertion, l'État nous impose d'avoir 70% de subventions et 30% d'autofinancement, c'est-à-dire les recettes issues de la commercialisation. Quand je dis subvention, ce sont les communes, départements, États, régions, Europe et les établissements publics comme les intercommunalités, l'agence de l'eau, enfin différents partenaires. Alors, je vais prendre un petit exemple. Un petit exemple parce qu'au début, les jardiniers de France nous ont donné des plants de pommes de terre. Ils nous ont dit, bah, tiens, on va vous donner, vous pouvez les faire cultiver par les gens en insertion. Bon, je dis, OK. Donc, et la récolte, on les donne au restaurant du cœur. Mais le problème, c'est qu'en allant voir les restaurants du cœur, la personne nous dit, vous savez, monsieur, vos légumes frais, c'est bien, parce qu'on avait ajouté quelques carottes. La personne dit, les dames qui sont là, elles préfèrent manger des boîtes de conserve. Ah bon? Ben pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elles ne savaient pas cuisiner. Donc, on a monté un atelier cuisine. Un atelier cuisine, donc là, on a fait... Ben, quand on fait, eh ben, on a fait intervenir une diététicienne. Et la diététicienne dit... Vous savez, au niveau de l'hygiène alimentaire, l'équilibre alimentaire, c'est pas trop ça. Ils mangent pour beaucoup, trop gras. Donc, il y avait certains qui avaient même des problèmes d'addiction. Donc, on a commencé à faire des ateliers santé. Donc, pour revenir à l'économique, on a maintenant des partenaires financiers comme l'ARS, Agence nationale de la santé, comme la Caisse primaire d'assurance maladie, alors que c'était des partenaires qu'on n'aurait pas imaginé au début. Donc, on est un petit peu étonné de voir que parfois, on met le doigt, on met le bras, et ensuite, c'est la totalité, quoi. Donc, tout ça pour dire simplement que, parfois, je vais prendre un autre exemple, et puis je pense que j'arrêterai là, parce que j'en ai beaucoup à dire. C'est les jardins. Nous avons donc, au niveau des jardins, un public féminin. Et comme nous avons différents jardins, bon, ces dames, faut qu'elles fassent leurs besoins, on peut comprendre. Donc, on a mis, des toilettes sèches. En rapport avec notre culture environnementale, sans jeu de mots, donc des toilettes sèches. Et puis, de ce fait-là, ça a débouché sur un atelier menuiserie. Donc, qu'a-t-on fait? On a fait des hôtels insectes, des nichoirs, des mangeoires. Donc, voilà un petit peu comment s'effectue. Finalement, l'originalité de l'association, c'est de créer des activités, pas pour créer de l'activité, mais simplement pour satisfaire un besoin qui a été identifié, mais non satisfait.
Très très bien.
Voilà, satisfaire un besoin.
Aussi.
Eh bien, Jacques, on va mettre peut-être un petit peu de musique. Vous êtes là quand même pour la journée.
Le centre de non-environnement est bien sûr là toute la journée. Enfin, en ce qui me concerne personnellement, je ne serai là que le matin. Mais vous aurez la joie de voir mes collègues stagiaires et titulaires qui sont derrière le centre de non-environnement, que je vous invite à aller découvrir.
Tout à fait. Alors Jean-Philippe, donc ce matin, nous aurons une seconde interview de Jacques Zwitalski parce que, à savoir, c'est un spécialiste et il a une véritable passion pour cela. C'est un spécialiste des palmiers.
D'accord. Eh bien, on va découvrir ça.
Et on découvrira ça parce que c'est vrai, on ne le sait pas toujours. Les palmiers poussent super bien dans notre région.
David Bowie, tout de suite.
À tout à l'heure, Jacques.
Sur Radio Plus. David Bowie, à l'instant sur Radio Plus, tout de suite, Pascal Picard, No War at All.
10h passées de 35 minutes. Clenched fists, burning torches, the mob moves forward, so slowly liberated. Pull out your gun, it's so much fun. We both know you want to use it. Fill me up with your lack of courage. Laugh over all we lost, so nothing would change. Fill me up with your lack of rage. Nous sommes donc toujours en direct sur Radio Plus depuis le Salon du Printemps qui se déroule à Saint-Angoël. C'est Impasse Sully que se situe donc la Halle des Sports. Vous pouvez vous rendre justement à ce Salon du Printemps qui, au demeurant, est fort intéressant. Voilà, le monde commence à arriver. Et puis Martine, tu es en compagnie de Jean-Jacques Lauten.
Voilà, Jean-Jacques Lauten qui est à l'initiation, n'est-ce pas, à l'initiative, pardon, de ce salon. Alors Jean-Jacques, vous êtes adjoint, on l'a dit tout à l'heure, au maire de Saint, mais vous êtes aussi le président de l'association Saint de Nature et de Culture. Alors, vous l'avez déjà fait sur l'antenne de Radio Plus, mais vous allez peut-être nous en reparler de cette association.
Oui, bonjour à tout le monde. Mais écoutez, avant de vous répondre, je vais déjà passer un petit message aux adhérents de l'association Sainte Nature et Culture qui ont participé à cet événement et les remercier pour leur bénévolat depuis 48 heures de travail et d'installation. Donc, je voudrais remercier tous les volontaires de l'association qui sont ici présents aujourd'hui. Pour revenir au salon, donc nous avons une thématique cette année, un emblème qui a été pris sur le hérisson, puisque il y a des associations au niveau national qui prennent en compte la gravité de la situation, à savoir qu'actuellement le hérisson, d'après des études qui ont été établies, dans 10 ans le hérisson n'existera plus en France. C'est une espèce qui va disparaître totalement, comme en Angleterre. À la différence qu'en Angleterre, ils ont pris le problème à bras le corps, ils ont pris des mesures gouvernementales au niveau de cette protection. En France, hormis le fait que le hérisson est une espèce protégée, mais à très moindre importance, c'est-à-dire que il est estimé actuellement qu'il est protégé, mais de faible niveau. Et on voudrait actuellement que certaines associations et même politiques prennent conscience de la gravité. Donc il faut savoir que le hérisson, en moyenne, vous aviez, il y a à peu près une vingtaine d'années de ça, 200 hérissons par pâture, par que vous pouvez trouver dans les champs sur des surfaces d'un hectare. Actuellement, vous pouvez en trouver que 3. C'est la moyenne qui est constatée. Donc il faut sensibiliser les gens sur les hérissons. Bon, vous savez tous que le hérisson, la grosse problématique pour lui, c'est de traverser les routes, de se faire écraser. Et ça, bien évidemment, on peut supprimer les voitures pour les empêcher. Donc on peut éventuellement prévoir des corridors de passage. Mais il faut savoir aussi que la perte des hérissons vient aussi des pesticides. Et l'usage des pesticides se répartit sur les insectes qui automatiquement sont mangés par les hérissons. Et vous retrouvez les hérissons qui se trouvent empoisonnés. Et la troisième cause également, ce sont les maladies tout à fait ordinaires ou éventuellement les prédateurs comme le renard ou les blaireaux. Donc ce qu'il faut, c'est sensibiliser les gens à créer. Ici, vous avez des ateliers avec des abris à hérissons qui sont très faciles à faire, même avec des palettes. C'est des petits abris qu'il faut confectionner pour l'hiver, qu'on peut disposer dans certains endroits, dans des communes, de façon à leur donner des abris pour l'hiver, voire à replanter certains arbustes, certaines variétés d'arbustes dans des communes, de façon à leur donner des abris naturels. Voilà, il y a des choses toutes simples à faire, et éventuellement même des dépôts de nourriture sous forme de croquettes de chat ou croquettes de chien qu'on peut éventuellement distribuer sur une commune.
Donc, vous avez anticipé un petit peu sur ce que je voulais vous demander, mais vous n'avez pas répondu à ma question, Jean-Jacques. À l'initiative, enfin, pourquoi cette association? On l'a compris, hein, d'après ce que vous venez de nous dire. Évidemment, cette association Sein de Nature et de Culture existe, a pris forme, je dirais, pour préserver la biodiversité et la nature au sein de votre commune, c'est-à-dire de la commune de Saint-Angoël. Mais alors, cette idée vous est arrivée comment?
Cette idée est arrivée tout bêtement. Une fois, j'étais au centre culturel de la commune où j'ai croisé une maman avec son enfant et on avait commencé à faire un petit parterre de fleurs et autres et de légumes, et j'ai parlé avec elle, et en parlant avec elle, je lui ai demandé au niveau des plantations de légumes, de pommes de terre, de poivrons, et cette dame qui avait à peu près une quarantaine d'années me disait qu'elle savait pas comment ça poussait un poivron. Donc je me suis dit, tiens, si une maman de 40 ans ne le sait pas, le petit bébé qui était, le petit boutchou qui était avec elle, qui avait à peu près une dizaine d'années, sorti des légumes dans les paniers bleus dans les grandes surfaces, il ne doit pas savoir non plus. Donc l'idée a été de créer une association pour sensibiliser justement, pour transmettre des valeurs de culture, de partage concernant les fleurs, les légumes et autres au niveau de la commune, et de créer justement cette association pour sensibiliser les écoles, pour faire passer nos messages, quoi. Moi personnellement, je suis d'un petit village qui s'appelle Lignol-les-Béthune, où j'ai été élevé en grande partie par mes grands-parents. J'ai pu bénéficier de tout ce qui se faisait au niveau culture, jardinage et autres, et je me rends compte que nos générations actuelles, écoutez, je vous défie certains enfants de demander comment ça pousse une pomme de terre. Ils croient que ça pousse dans un arbre alors que ça pousse dans la terre, quoi. Donc voilà, c'était le but de créer cette association et de monter des manifestations avec les bénévoles pour redonner un regain d'attirer sur tout ce qui est environnemental et biodiversité.
Et puis pour beaucoup d'enfants pensent que les légumes poussent dans les boîtes.
Dans les boîtes.
Dans les boîtes. Alors, Jean-Jacques, c'est vrai que donc vous privilégiez la nature, bien sûr, mais vous privilégiez aussi, et ça c'est quelque chose que vous voulez développer au sein de l'association, les jardins, jardins ouvriers, on va dire, jardins participatifs.
Oui, tout à fait. C'est bien d'apprendre aux gens, enfin, d'aller sensibiliser là-dessus, mais on s'en rend compte également que dans une commune comme Saint-Goël, avec une cité minière, ici, je reconnais qu'il y a certains anciens mineurs qui habitaient la commune et qui dit maison de mineur dit automatiquement potager juste à côté. Et ben, nos ayants droit que nous avons actuellement sur la commune disparaissent de plus en plus. Et vous retrouvez beaucoup de personnes âgées qui possèdent des petites parcelles de terrain et qui ne peuvent plus, pour des raisons d'âge ou de physique, qui ne peuvent plus les cultiver. Donc l'idée était de mettre tout ce qui est population, habitants en horizontal et en vertical en relation, de façon, puisque vous avez des gens en appartement qui ne peuvent plus, enfin qui n'ont pas la possibilité de cultiver et qui désiraient bien avoir un petit coin de terre pour pouvoir cultiver, surtout avec les problématiques que nous avons de chômage dans notre région. Je pense que c'est un complément alimentaire également, et c'est une raison aussi de retourner à une culture bio, si on veut dire, de fait par soi-même, sans aller chercher des produits qui viennent d'Espagne ou du Maroc et qui éventuellement, au niveau législation, n'ont pas la même implication sur les pesticides. Donc ici, on a un très bon spécialiste des tomates qui s'appelle Bertrand et qui peut vous parler du sujet sur les tomates. Entre des tomates que vous avez qui fait venir de pays étrangers ou autres, que vous ouvrez en deux et elles sont creuses, et les vraies tomates que vous cultivez dans votre jardin, vous l'ouvrez en deux et là vous avez vraiment de la chair à manger. Donc voilà. Donc le principe c'était de mettre les gens qui habitaient en appartement et ceux qui étaient en maison, de les mettre en relation. Et ça a pris un petit peu. Il y a eu quelques jardins partagés qui se sont créés, mais c'était pas exactement la demande que j'espérais. Je pensais qu'avoir une plus grande dynamique. Donc l'idée nous est venue ici récemment de créer un jardin collectif au centre même de la cité 10, de façon à ce que ce soit un jardin qui soit pédagogique, collectif, de façon à attirer les gens pour redonner l'envie de cultiver, de participer, de façon à leur donner l'envie de faire la même chose chez eux. Et donc ce jardin collectif a été fait par les métiers de jeunes qui étaient en chantier de participatif, qui sont là-bas, juste devant moi, et qui ont monté des carrés potagers qu'ils ont fabriqués eux-mêmes par le biais de palettes et qui ont installé tout ce petit jardin.
Merci Jean-Jacques. Et puis justement de cet aménagement de la Cité 10, eh bien on en reparlera tout à l'heure, peut-être cet après-midi, avec vous Jean-Jacques bien sûr, et puis aussi avec Monsieur le maire de la commune. Donc je vous dis à tout à l'heure, Jean-Philippe.
Oui, alors je vais vous inviter maintenant à découvrir un stand présent dans ce salon du printemps. Il s'agit du stand de cueillette nomade avec Fanny Vasseur qui est en train de préparer quelque chose. Elle va nous expliquer ça. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Alors expliquez-nous, vous allez faire fabriquer du pesto à travers un atelier.
Voilà, donc j'ai cueilli ce matin des feuilles et des herbes sauvages avec lesquelles je propose de fabriquer un pesto. Donc ce sont des herbes sauvages comestibles.
Voilà. Alors quelles herbes justement ?
Donc alors il y a du cyrce potager. Voilà. On a de la petite oseille, on a du trèfle des prés, on a de l'épierre des bois, de l'ail des ours, de la pimprenelle, du cerfeuil sauvage, etc. Voilà, plein de petites plantes sauvages. Donc c'est l'occasion en fait de découvrir que les plantes sauvages certaines sont comestibles, ont des vertus très intéressantes, donc reminéralisantes pour l'organisme, et du coup voilà l'occasion de faire découvrir toutes ces vertus et toutes ces propriétés des plantes.
Alors cet atelier, vous allez le démarrer dans combien de temps ?
Incessamment sous peu, mais je suis prête.
Donc on peut venir s'inscrire à votre atelier, c'est ça ? Comment ça fonctionne ?
Alors on vient et puis on fait son petit pesto. Donc je vous propose une planche, un couteau, on choisit les plantes ensemble. Et puis voilà, l'idée c'est d'émincer, de remplir un petit pot, de rajouter de l'huile d'olive bio, bien sûr. Et puis voilà, ensuite vous repartez avec votre petit pot que vous pouvez tartiner sur des toasts et puis déguster en apéritif.
Très bien, et bien.
Est-ce que ce genre de préparation, on peut la mettre aussi dans les pâtes ?
Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ça va très bien dans les pâtes, avec un petit peu de parmesan, délicieux.
Ah ben voilà, pesto, oui. Vous allez commencer à me donner faim, hein, c'est pas bien.
Alors, vous avez dit, Fanny, que ces plantes aromatiques ont des pouvoirs et des vertus. Non seulement, bon, elles sont aromatiques, certes, mais aussi médicinales.
Oui, tout à fait. Donc, certaines plantes sont également médicinales. On a ici, par exemple, l'égopode. Donc, c'est une plante médicinale. Son nom populaire, c'est l'herbe aux goutteux. Donc, elle a été utilisée par nos grands-mères pour soigner les crises de gouttes.
Ah, d'accord. Donc, et ça a été oublié. Et puis, ça revient aujourd'hui à travers vous et puis d'autres personnes aussi qui font la même activité. Et comment vous êtes intéressé justement à tout ce domaine de plantes aromatiques et médicinales? C'est venu comment?
Alors, je crois que c'est, ça fait partie de moi, l'amour de la nature, depuis toute petite, les balades, voilà. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré des personnes qui en faisaient leur métier, qui faisaient de la cueillette sauvage et qui pouvaient transmettre ces connaissances. Et donc, j'ai trouvé que ça n'existait pas dans notre région. Et donc, je me suis dit, je vais me lancer.
Très bien. Donc, alors, si on souhaite plus d'informations, comment fait-on?
Eh bien, il y a un site internet, donc Cueillette Nomade, www.cueillette-nomade.fr. Et voilà, donc sur le site internet, il y a toutes les plantes que je produis et les produits que je transforme, et puis les dates des ateliers que je propose, puisque je propose aussi des ateliers où on va cueillir ensemble et ensuite faire l'atelier cuisine.
D'accord. Et ça, vous le faites partout dans la région ou comment ça se passe?
Alors, ça se passe souvent chez moi, à Brunembert, donc c'est près de Dèvres. Et puis, je me déplace également au gré des demandes dans la région.
Eh bien, Fanny, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que donc vous représentez Cueillette Nomade. Alors, je rappelle le site internet, le www.cueillette-nomade.fr. Et puis, à toutes celles et tous ceux qui le souhaitent, si ils ou elles veulent réaliser leur propre pesto, eh bien, vous pouvez le faire dans cet atelier. Voilà, si j'ai un peu de temps, j'essaierai, mais voilà, je crains que je n'ai pas tellement de temps. On verra.
Tu me regardes, Jean-Philippe, et bien écoute, je suis en train de manger des fleurs, figure-toi.
D'accord, oui. Alors, qu'est-ce que ça donne?
C'est pas mauvais du tout.
Si je te disais...
J'ai hésité avant de la mettre dans la bouche, mais ça n'est pas mauvais du tout.
Si je te disais ce que j'ai bu hier en famille, tu serais bien étonné. J'en parlerai en off. Voilà, on va se remettre un petit peu de musique. Quelques instants, c'est la pub. Donc on se retrouvera à partir de 11h pour la suite de ce direct depuis le Salon du Printemps de Saint-Angoël. N'hésitez pas à vous y rendre. C'est dans l'impasse Sully, à la Halle des Sports de Saint-Angoël. Relativement simple à trouver si vous avez un GPS, il n'y a pas de souci pour vous y rendre. Et en tous les cas, voilà, on vous attend avec plaisir. Venez nombreuses et nombreux. Il y a également donc des stands à l'extérieur. Vous pouvez emmener les enfants faire des balades en âne, il me semble. Et donc voilà, on essaiera d'ailleurs d'aller y faire un petit tour tout à l'heure. Voilà, il est 10h53 sur Radio Plus. David Hallyday.
Je reste avec mes souvenirs, ces morceaux de passé, comme un miroir en éclat de verre. Mais à quoi ça sert, ce que je voulais te dire, reste sur des pages blanches, sur lesquelles je peux. Tu me manques. pas laisser le temps.